Salut à tous, bienvenue sur le matin.ch pour un nouvel épisode des 3 quarts d'heure de cette équipe. Comme on est bientôt tous remplacés par des machines, je m'entraîne avec cette introduction. Au programme d'aujourd'hui, bouleversé par l'actualité. On va parler du licenciement de Marco Schellibaum d'Yverdon Sport et se demander si le foot suisse est romand à un avenir, lui qui devient de plus en plus fait de clubs filiales. Et tout ça est devenu au fil de la discussion très philosophique. On parlera aussi vers la fin du FC Bâle, de plus en plus candidat à la relégation. C'est parti pour les trois quarts d'heure de cette équipe. Avec Valentin Schnorck, Florian Vanet et Daniel Romano, de Blue Sport.
C'est parti pour ces trois quarts d'heure de cette équipe, en plein dans l'actualité. Je commence par saluer quand même Daniel Romano de Blue Sport. Comment ça va?
Ça va bien, merci. Salut Romain, salut les gars.
Valentin Schnorck et Florian Vanet du Sport Center. Salut à vous deux.
Salut.
Bonjour, bonjour.
Bon, on ne va pas mentir à nos auditeurs, il est 13h02 quand on enregistre, et ben, l'actu est allée plus vite que le ralenti. Marco Schellibaum est parti contraint et forcé d'Yverdon. Florian, ça vient d'où? C'est quoi? C'est son coup de sang du week-end? C'est plus global? Comment on explique ce choix?
Alors, dire qu'on s'y attendait... Ce serait faux et vrai en même temps, parce que bon, on l'a déjà dit de nombreuses fois, la place de Marco Schellibaum ne tient forcément qu'à un fil, sachant que les dirigeants ont changé durant l'été et que la politique a drastiquement changé aussi, que Marco Schellibaum n'est pas un entraîneur choisi par les nouveaux dirigeants et que voilà, par essence même, il était en danger. Maintenant que ça tombe là, maintenant comme ça, après un match tout à fait correct contre Winterthur, au terme d'un premier tour plus qu'abouti de l'équipe. Ce côté-là surprend un peu plus. Faut peut-être laisser quand même une certaine honnêteté, j'ai l'impression, dans le discours des dirigeants par rapport à ça. Il semblerait qu'on ne lui ait pas menti, on n'ait pas attendu qu'il perde deux matchs de suite pour lui dire « Non, désolé, c'était résultat, ça ne va plus ». On ne lui a pas reproché son coup de sang, visiblement, son carton rouge et ses excès de colère qui peuvent parfois arriver. Voilà, visiblement, on lui a clairement dit « Écoute Marco, tu es un bon entraîneur, mais dans notre projet, c'est pas toi qui nous faut ». Voilà, et je pense que Faut au moins laisser une certaine honnêteté à Yverdon Sport dans ce cadre-là.
Et moi, je me demande aussi. Ouais, en fait, je partage l'avis de Flo. Il y a peut-être juste une chose qu'on pourrait ajouter, c'est que bon, bah, les dirigeants étaient, la direction était à Lucerne le week-end dernier, était à Yverdon toute la semaine et était aussi là contre Winterthur l'autre soir. Et en voyant la compo du match de samedi. J'ai l'impression que Marco Schellibaum a pris la décision de mettre l'équipe que lui veut mettre comme un entraîneur, devrait normalement être libre de le faire, avec notamment le choix de Kevin Martin. Enfin, on connaît tous ce qui se trame là autour entre Breza et Martin. Cespedes aussi, ça commence à parler un peu. Et donc, c'était peut-être aussi une manière de dire que voilà, il voulait faire sa propre équipe et ça a peut-être aussi joué un peu là-dedans.
Valentin, le timing interpelle quand même un peu. Il y a eu deux pauses internationales, la chance de changer quand tu as du temps pour bosser. Il y a aussi ce qui s'est passé ce week-end avec un match important, un point sauvé, mais quand même pas mal de péripéties autour de ce match. Est-ce que toi, t'es surpris, interpellé par la décision?
Disons, connaissant le contexte d'Yverdon, sachant... les repreneurs américains, leur projet à moitié caché, mais en même temps tout à fait assumé qu'ils veulent se développer, et peut-être éventuellement aller prendre un autre club un jour ou l'autre. Enfin bref, ces propriétaires-là voient la chose en grand. Yverdon est plus un outil qu'une fin en soi. Et que dans ce contexte-là, évidemment qu'un profil comme Marco Schellibaum n'est pas celui qui connaît le mieux. Finalement, c'est celui qui a le mieux fonctionné pour assurer la transition. Mais depuis dernière semaine, on a le sentiment qu'il y avait peut-être une forme de baroudeur de sa part à faire jouer certains joueurs, sans doute contre la volonté de ses dirigeants. En tout cas, à s'opposer alors à ce que ses dirigeants préféraient. On a parlé de Kevin Martin, de Sébastien Preza. Évidemment que l'élément le plus éloquent. Et puis au-delà de ça, le faire maintenant ou le faire dans 2 semaines ou dans 3 semaines ou dans 4 semaines, ça ne changera rien pour les patrons divers dans le sport. C'est clair et net qu'ils veulent passer à autre chose. Ils veulent actionner une étape supplémentaire dans la fusée qui compte faire démarrer. Et que tu le fasses maintenant, que tu le fasses en 3 semaines, ça n'aurait pas changé fondamentalement grand-chose. Au contraire, là, peut-être que le prochain entraîneur qui va arriver, alors en l'occurrence, on n'a pas de nom encore sur la personne qui serait désignée, mais j'imagine bien que ça viendra du réseau des nouveaux propriétaires, de la nouvelle direction. Il aura peut-être simplement plus de temps à disposition que s'il est arrivé plus tard.
Florian, c'est un petit pied de nez. Bel arrêt sur penalty, bon match du gardien qui ne devrait pas être là, Cespedes qui marque. C'est une sortie en beauté quand même, sur le coup.
Ouais, bah ça amène la question de qu'est-ce qui va désormais arriver aux joueurs divers dans le sport. Est-ce qu'on va encore voir un Kevin Martin sur le terrain, un Boris Cespedes, un Anthony Sautier, un William Le Bogham? J'imagine que pour ce qui est du cas des deux latéraux, oui, parce qu'il n'y a pas forcément 36 000 autres choix à ce poste-là. Mais oui, ça induit des questions, notamment par rapport au mercato d'hiver aussi. Est-ce qu'on va aller leur chercher des remplaçants? Il faut imaginer. Et puis, mine de rien, le contexte à Yverdon était devenu un peu pesant dans le sens où les spectateurs ne savaient plus vraiment à quel sens vouer. Ils voyaient une équipe sur le terrain et il y avait toujours cette espèce d'ambivalence en se dire, mais attends, est-ce que ce joueur-là, il est sur le terrain parce que Marc Auchet-Lébaume l'a choisi parce que c'est le meilleur à l'entraînement, ou est-ce qu'il est là parce que peut-être qu'il est un peu plus bankable que l'autre et puis il est arrivé cet été de la part des nouveaux propriétaires? Et ça a quelque chose d'assez malsain. Est-ce que ça va changer à partir de maintenant? Je ne sais pas. Est-ce que ça va aller dans un meilleur sens? Je ne sais pas non plus, mais peut-être que ça va un peu diminuer au moins.
Dany, on voit quand même que le championnat de Suisse devient gentiment un championnat de club filiale, quoi.
Oui, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce qu'évidemment, il y a quelques points positifs et puis beaucoup de points négatifs, à mon avis, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui nous échappent. Il y a plus ce côté... qu'on a pu connaître autrefois. Et après, il faut toujours se demander qu'est-ce qui arrivera après. Qu'est-ce qui arrivera quand les dirigeants qui achètent ces clubs en auront marre, ont plus envie de jouer avec ces jouets? Parce que pour moi, c'est un petit peu ça hein, que je vois, c'est mon avis très personnel. Et je me demande toujours ce qui arrive après, parce qu'il y a tellement d'argent en jeu. Est-ce qu'après, il y a des gens qui sont en mesure de racheter ces clubs qui après vont prendre vont prendre de la valeur? Et ouais, je suis toujours un peu inquiet et je me pose pas mal de questions à ce sujet.
Valentin, on a vu en Belgique, c'est toute la D2 appartient à des clubs anglais, Strasbourg, Chelsea, ça devient compliqué à suivre, mais c'est le trend actuel. Je pense pas que c'est forcément vertueux, mais c'est le trend actuel du foot. Hein.
Ouais, enfin c'est, disons que ça induit un débat qui est quand même beaucoup plus large, une réflexion beaucoup plus large sur la manière dont on veut faire évoluer le football actuellement. Qu'un petit championnat, qu'ici on est dans ce contexte-là, qu'un petit championnat comme la Suisse soit sous le contrôle de plus gros groupes, moi ça m'étonne pas. Évidemment que c'est un point de passage que tu peux imaginer. Ensuite que ce soit admis clairement dans une structure qui soit établie, qui soit construite, ou que ce soit à demi-mot avec des directeurs sportifs qui se connaissent et puis qui prêtent un paquet de joueurs d'un côté ou d'un autre parce qu'ils ont des bonnes relations. Au final, c'est un petit peu toujours la même chose. Mais moi, ça me désole, parce que c'est le problème, c'est que c'est souvent des groupes qui ont de la peine à respecter l'identité des clubs, ou en tout cas s'intéresser à l'identité des clubs. Après, je ne suis pas sûr que ce soit fondamentalement mauvais pour le développement des clubs en question. C'est au contraire, je pense que ça peut aussi amener beaucoup de bonnes choses, mais c'est la perte du lien avec son public, avec son terreau local qui peut être inquiétante.
C'est le problème, Florian, c'est que sans ces investisseurs-là, étrangers, mécènes à fond les ballons, il n'y aurait pas de foot de haut niveau dans le canton de Vaud.
Probablement. Et ils profitent aussi du fait qu'il y ait un certain... disons que la plupart des supporters acceptent de ne pas regarder plus loin que les quatre lignes du terrain de foot. Je parlais encore récemment avec un supporter d'Yverdon Sport qui était là, ben, oui, on voit que notre club a changé, oui, on voit que c'est plus pareil qu'avant, mais nous, on ferme les yeux, parce que si on ne ferme pas les yeux, on ne fait plus rien, on soutient plus ce club, etc. Et j'ai l'impression que les supporters sont parfaitement prêts à râler, en parler entre eux, etc. Mais il n'y aura jamais vraiment de boycott, tu vois. Enfin, personne va jusque-là. Et donc, quelque part, ces nouveaux actionnaires, ces nouveaux dirigeants, ben, ils en profitent, parce que pour eux, qu'on râle ou pas, du moment qu'ils ramènent des victoires, ils ramènent du monde au stade. Et j'ai l'impression que ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, quoi.
Toi, c'est quoi ton avis, Robin? Coup, Daniel, ton avis. Moi, j'aimerais bien t'écouter aussi là-dessus, ça m'intéresse.
Mais ben, on le vit très clairement à Lausanne, où tu as deux situations absolument... c'est dur de trouver les mots. Parce que le slow ne devrait pas être là, mais c'est parce qu'il a un propriétaire qui a un peu d'argent, qui voit loin, ça l'amuse, les gens travaillent très bien, et comme d'autres ne travaillent pas bien, ben, ils se trouvent en Super League un peu par l'intervention du Saint-Esprit. Mais le syndrome du Lausanne Sport est vraiment un superbe exemple de ce qu'est devenu le foot roman ou vaudois. Moi, je prends toujours l'exemple à Lausanne, où le club phare du canton, il a fallu que des Anglais injectent beaucoup d'argent dedans, on parle quand même d'une cinquantaine de millions hein, depuis qu'ils sont là, pour qu'ils vivent à haut niveau et qu'il ait un stade à peu près crédible. Parce que ce que la ville, l'État avait financé, c'était un stade un peu low cost, le EasyJet du stade. Mais les 20 millions qu'a mis Ineos dedans, ça a permis de faire du très bon matériel. Ok, il faut un Américain ou des investisseurs russo-américano-suisses avec un Belge avant, un Tchèque, pour qu'il y ait du putain de sport de haut niveau à Lausanne. Et moi, je trouve ça incroyable qu'on doive, ben, tu vois, hein, si Rolex ne mettait pas d'argent à Servette, je ne sais pas où seraient tous les clubs genevois. S'il n'y a pas Christian Constantin, le session n'existerait sûrement plus. Quand on voit les chiffres qu'il balance dans ses divers communiqués de presse sur son site, on se rend compte que ça coûte très cher du sport de haut niveau quand il n'y a pas forcément les ressources derrière. Et puis, ben, le seul bon exemple de ce qu'est en fait le foot roman, c'est que Samax, qui vit avec ses moyens, c'est le seul qui ne vit pas au-dessus de ses moyens, et ben, il se retrouve à vivoter en Challenge League, parce que là-bas, c'est le seul endroit où on dépense l'argent qu'on a. Donc, c'est insoluble pour moi. Valentin ?
Non, mais dans ce contexte-là, il faut trouver des sources de financement ailleurs, ou alors accepter que le football professionnel n'est pas viable dans notre région, et voire dans notre pays, tout simplement. Mais je pense qu'il y a une place pour du football. Je pense que c'est un bien commun aussi qui mérite d'être soutenu parfois à perte, comme d'autres secteurs qu'on pourrait évoquer également aussi. Mais évidemment que on parle de l'exemple de Genève, où la fondation Wilsdorf, par l'intermédiaire de la fondation 1890, a mis énormément d'argent, a couvert beaucoup de pertes ces dernières années pour le football, pour le hockey. Mais c'est une, alors en l'occurrence, hein, c'est un schéma un petit peu particulier parce que c'est une fondation qui ne doit rien à personne si ce n'est qu'elle a surtout besoin de faire parler en bien d'elle et puis de promouvoir. Elle a comme seul but dans ses statuts de promouvoir la bonne image à Genève. Donc ça passe par le social, ça passe par la culture et ça passe par le sport, par la culture et par le sport. Que le sport soit considéré comme un bien, comme quelque chose qui donne une bonne image à une région, à un canton, à une population, je trouve que c'est une évolution qui peut être intéressante et c'est un modèle qui peut être pertinent. Alors évidemment que c'est de l'argent à perte, mais c'est sans doute un secteur dans lequel il faut accepter de perdre un peu d'argent pour avoir une bonne image, oui, mais aussi pour faire briller un petit peu plus un coin de pays, une ville, etc. Et c'est le sport, ça y contribue dans ces domaines-là.
Daniel, ce qui est marrant, c'est que l'argent vient de l'étranger, mais les clubs n'ont jamais autant communiqué sur voilà, un
Ouais,
club, un canton,
exact.
la culture locale aussi. C'est
Et c'est
marrant,
tellement
quoi.
paradoxal, oui, c'est hyper paradoxal. Tu as tout dit. Tu as tout dit. On parle effectivement de la fierté du coin, la fierté de la ville, la fierté du canton, mais l'argent et les dirigeants ne sont plus des dirigeants forcément de chez Noir. Y a des exceptions. Par exemple, tu vois, au Lausanne Sport, Vincent Steinmann est quand même toujours là. C'est vraiment un gars du coin. Heureusement qu'il est là d'ailleurs, parce qu'il est le visage, finalement, en quelque sorte, de ce club. D'ailleurs, sur Blue Sport, quand on a envie d'interroger un dirigeant, souvent on va vers lui. On a eu aussi quelquefois Guillaume Katsou, Lene Emskerk, mais le visage,
Ou
les gens.
Blaise Berlinguer,
Ou
ouais.
Merzinger, c'était assez sympa ça, on s'était fait arroser. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu demandes à un Lausannois, je pense, tu le mets à Saint-François et il marche, il va depuis les portes de Saint-François jusqu'à l'église, et puis tu le fais croiser Lenemskerk, Vincent Steinmann, Vincent Steinmann, il va le reconnaître, et pas forcément Lenemskerk. Ce n'est pas une critique. Ce que je veux dire, c'est que c'est. Le visage de Vincent Steinmann, ça reste celui du LS. Et après, bah oui, c'est effectivement c'est très très paradoxal ce que tu dis.
Mais ces communications, on est d'accord que c'est évidemment du flan. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je pense quand même que ces repreneurs étrangers, on en vraiment après nos gamins du coin, comme on dit. Parce que, et peut-être même que, je pense qu'on peut dire que, d'une certaine manière, ça profite à la formation du football en Suisse. Parce que s'ils sont là pour faire de l'argent, ils veulent qu'on ait des formations qui fonctionnent. Ils veulent qu'on ait des juniors qui sortent. Ils veulent pouvoir profiter du modèle de championnat suisse qui est faire éclore des jeunes pour aller revendre à l'étranger et se faire du blé comme ça. Alors, au-delà du fait que l'identité locale, ils s'en fichent complètement, ils sont quand même là pour faire éclore nos jeunes, que ce soit pour des bonnes raisons, pour des bons intérêts ou pas. Je pense qu'il y a quand même quelque chose là derrière.
Mais évidemment qu'ils ont tout intérêt à faire en sorte enfin, un repreneur a tout intérêt à faire en sorte qu'un club soit structuré de la meilleure des manières. Du moins s'il est bien intentionné et puis qu'il a des bonnes idées pour le club. Ça, c'est une évidence. Je pense c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que les clubs en question ont beaucoup à tirer de ces repreneurs-là parce qu'ils ont un intérêt qu'ils voient plus loin que leur simple petit ego finalement, quoi. On parle de groupe, on parle d'une volonté de créer des groupes. Alors, ça peut aussi très bien se crasher d'une manière ou d'une autre, mais a priori, si tu fais un contrôle de due diligence avant qu'ils arrivent, tu sais au moins à peu près où tu vas. Ça ne veut pas dire qu'ils s'engagent pour 50 ans, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire du club en question le meilleur club d'Europe, mais au moins, ils vont faire en sorte que le club soit le mieux structuré possible, parce qu'ils jouent aussi une partie de leur réputation et qu'ils ont tout intérêt à créer de la richesse, à créer de la valeur à partir même d'une petite station dans leur réseau beaucoup plus important.
Mais Daniel, moi j'ai plus l'impression que les clubs filiales en Suisse, et surtout dans notre coin de pays, c'est plutôt des centres de coûts pour des équipes d'en dessus qui, elles, feront du pognon. Parce qu'en Suisse, on voit ton meilleur joueur, tu ne le vendras pas 62
Non.
millions à l'étranger. Tu le vendras 10, 15 ou 2,5 quand ça se passe entre les mains d'Ineos. Est-ce qu'on n'est pas juste, nous, qu'un maillon de la chaîne alimentaire?
Ah, c'est sympa comme question. Oui,
Là, je poserai la même aux deux, hein,
si on
après,
est,
t'inquiète pas.
ouais, comme ça, non, froidement dit, je te répondrais oui, parce que, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Et je me demande aussi à quel point c'est positif, dans le sens où j'ai l'impression que quand tu fais ça, tu es dans un éternel recommencement. En fait, tu dois tout le temps, en fait, te baser sur la construction d'une équipe qui ne sera presque plus la même la saison d'après. Tu perds énormément de joueurs, donc c'est un perpétuel recommencement dans la construction de l'équipe. Et c'est difficile pour moi, hein, en tant que journaliste, je dis bien parce que je suis pas à l'intérieur, mais d'être compétitif. Après, d'être compétitif sportivement, c'est un peu ce qu'on voit à Lausanne, où justement l'objectif de cette saison, on nous l'a dit, on nous l'a répété, c'est justement de ne plus être une équipe qui fait l'ascenseur. Donc, c'est vraiment de se stabiliser déjà en Super League. Et c'est un super objectif, quoi. Déjà de se dire, on doit réussir à rester en première division suisse de manière stable. Personne ne te parle comme il y a quelques années d'aller gagner, décrocher l'Europe et puis aller en finale d'Europa League. Quoi. J'exagère un peu, mais on nous avait parlé d'une équipe qui allait jouer la Coupe d'Europe. Et là, on est vraiment sur quelque chose de différent. Mais les exemples sont nombreux et c'est souvent ça le problème. C'est que tu ne peux pas te stabiliser sportivement.
Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a aussi des schémas qui sont vertueux. Je pense, alors c'est l'exemple évidemment fétiche, hein, mais le Compré de Bulle, il arrive quand même à créer des résultats. Alors, le championnat d'Autriche est le championnat d'Autriche. Ils ont sans doute la meilleure mainmise sur à peu près tout le football autrichien actuellement. Et ça a pris du temps à se construire. Et ils sont construits avec Ralf Rangnick. Donc, évidemment, et puis avec l'Empire Red Bull derrière. Donc, c'est sans doute un peu plus facile. Et puis, au moment où ils ont considéré que c'était pas assez grand, ils sont allés chercher Leipzig. Mais, force est d'admettre que ça marche quand même plutôt pas mal. Je peux en citer un autre, Brighton et l'Union Saint-Gilloise. Il me semble que c'est deux clubs qui, à leur échelle, fonctionnent quand même très bien, avec un propriétaire il est sans doute pas dénué d'intention mercantile, mais il a en tout cas une idée assez claire de la manière dont il veut travailler, sur laquelle il veut baser sa réflexion de club, en tout cas de club au pluriel. Je pense qu'il peut y avoir des modèles qui peuvent être intéressants. Alors.
Ouais, là, tu parles justement de modèles effectivement à l'étranger. Après, tu prends Wolverhampton Gateshead, tu prends ce qu'on peut voir en Suisse. J'ai l'impression que c'est là que, en Suisse, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, tu vois.
Est-ce que Chicago Lugano, ça marche pas?
Ouais, ok, c'est un exemple que je peux entendre, ouais, ça. Ouais, je trouve pas. C'est sur la bonne voie. Ça, je te d'accord. On peut pas dire que ça marche encore à 100%, mais oui, c'est sur la bonne voie. Ouais.
Je pense que c'est une affaire de personnes, une affaire de structure, une affaire de modèle. Mais c'est pas la copropriété, la multipropriété en soi n'est pas foncièrement mauvaise pour un club. Elle peut sans doute plus facilement l'être parce qu'elle perd un petit peu et puis qu'elle se détache très rapidement de l'identité de l'ancrage local dont on mentionnait tout à l'heure. Mais elle peut aussi être bien construite et puis permettre de créer quelque chose d'intéressant, mettant les bonnes personnes aux bons endroits et puis en gardant quand même un semblant de sensibilité du club en question local. Donc.
Après, Florian, le cas d'Yverdon est aussi un peu spécial parce qu'ils vont peut-être acheter un club en dessus. Mais moi, j'ai deux questions pour toi qui est le grand Manitou de tout ce qui est au nord des Chalands. Comment, à part les supporters, les petits jeunes, mais comment le vieux de la vieille qui a son abonnement, il vit ça d'être sous la coupe de ces gens-là, entre guillemets, et aussi quelles sont les perspectives parce que tu vas faire venir un coach qui va faire moderne, qui sera à la botte des propriétaires sans doute, mais qui n'aura pas, la liberté que Shelley Baum se donne de mettre le meilleur joueur au même endroit, et puis qui ne connaîtra pas les spécificités, Dieu sait que c'est bizarre le championnat de Suisse, le stade municipal et toute l'histoire du foot à Yverdon, quoi.
Ah, mais j'ai un avis très tranché sur la question, et j'en parlais un peu avant, mais en fait, quelque part, les supporters, ont commencé à râler en début de saison, vont continuer à râler encore plus maintenant, mais ils vont continuer à venir au stade, en fait. Ils seront déçus, ils seront énervés, ils vont dire qu'il n'y a plus leur joueur yverdonois, que Nimi Luzena a plus assez de temps de jeu, que machin, que c'est plus comme avant, mais ils seront toujours là. Et en fait, le message qu'on peut peut-être passer, c'est que le football régional existe peut-être aussi pour ça, quoi. Si vous en avez marre de ce modèle-là, ce que je peux complètement comprendre, si vous adhérez pas à ça, eh ben, y a des équipes qui jouent en 3e division, il y a des équipes qui jouent en 4e division, en 2e ligue, en 3e ligue, et c'est du football aussi, et ça ressemble pas à ça, tu vois. Donc, je sais pas, je pense qu'il faut pas oublier ce football-là.
Après, il y a aussi les gens souvent, tu leur fais un peu oublier ça en gagnant. En fait, c'est ça, tout simplement. C'est que au début, ils seront pas forcément contents de ça. Après, si tu gagnes, ça marche. Et si tu perds, c'est pire. Nous, on l'a vu justement ces dernières saisons à Lausanne, par exemple, où justement les supporters ont remis tout ça en question en parlant de ce côté, de ce manque de côté régional et.
Mais est-ce que ça se retranscrit vraiment dans les affluences au stade? Moi, je ne sais pas. On entend beaucoup de mouvements contestataires, mais j'ai même presque l'impression qu'il y a plus de monde aujourd'hui à la Tuyère qu'il y a quelques années. Peut-être que je me trompe.
Après, Valentin, pour rebondir sur le Lausanne Sport, qui, on a entendu Steinmann hier sur Blue Sport, c'est pas demain la veille qu'on aura ce directeur sportif, hein, même s'il semblerait qu'ils aient quelqu'un pas loin de signer, mais voilà. Sans Nice, le LS aurait jamais eu un Baldé, aurait jamais eu un personne, aurait jamais eu un Noé Dussen. C'est quand même la structure Ineos Football qui a amené tout ça. Sinon, le LS, que ce soit au niveau de la détection et au niveau pognon, n'aurait jamais pu régater.
Non, alors peut-être qu'il se serait inventé différemment, il se serait structuré complètement différemment. Mais évidemment qu'une structure comme ça, pour un club suisse, ça lui permet d'ouvrir des portes, ça lui permet d'accueillir des joueurs qu'il n'accueillerait sans doute pas dans d'autres contextes. Alors, évidemment que c'est les joueurs qui sont là de passage, et peut-être que pour 15 joueurs de passage, tu en as un qui va durer un peu plus pour des questions qui sont diverses et variées. Ça peut être l'intérêt personnel, ça peut être le fait qu'on ne va pas lui ouvrir la porte plus haut et puis qu'il va finalement rester. Hicham Mahou, à l'époque, quand il arrive à Lausanne, c'est pas dans l'idée qu'il revienne à Nice à un moment ou à un autre. Finalement, il s'est installé en Suisse et puis alors, il revient de blessure simplement maintenant. Mais je pense que ça peut être un joueur tout à fait intéressant pour le championnat de Suisse et qui peut s'inventer une carrière dans le championnat de Suisse. On peut aussi rien qu'à Servette. Hier, Ben Dibola qui a marqué pour Servette. Il a fait 2 ans à Getzé en prêt de Wolverhampton. Alors, il est encore prêté par Wolverhampton à Servette. Mais voilà, c'est qu'il s'est sans doute construit une carrière aussi en Suisse. Il va se construire une carrière à partir de la Suisse. Alors peut-être qu'elle va continuer ailleurs, peut-être qu'il va devoir y rester pendant des années et des années. Donc oui, c'est des joueurs qu'on pourrait sans doute pas attirer parce qu'on n'a pas des cellules de recrutement assez fortes, parce qu'il faut aller parce que quand tu es recruteur en Suisse, tu vas quand même taper dans deuxième ou troisième zone dans les grands championnats européens ou alors dans des tout petits championnats européens. Tu peux difficilement faire autrement. Et donc voilà, faut avoir des joueurs qui ont des statuts, qui sont en tout cas qui ont des potentiels, qui sont promis à quelque chose d'un petit peu plus grand, c'est sans doute le seul moyen de les avoir actuellement, ou alors tu fais comme Bâle et puis tu as des réseaux importants avec des agents. Et tu arrives à revendre beaucoup de joueurs et donc faire un petit peu de sous. Et puis en ce moment, certes, il est dans un marasme catastrophique, mais Renato Veiga, moi j'ai très envie de le regarder pendant toute la saison et je pense qu'on doit profiter de l'avoir en Suisse actuellement.
Daniel, il y a aussi ce truc un peu étonnant, c'est que maintenant, beaucoup de jeunes Suisses restent plus longtemps en Suisse, j'ai l'impression. À part les super talents, hein, qui sont vite attirés vers l'étranger très tôt. Je regardais l'équipe de Suisse M21. Alors, on ne peut pas dire que ce soit une génération extraordinaire, on est d'accord. Mais il y a les 9 dixièmes de l'équipe qui sont encore en Suisse.
Mais ça, c'est une bonne nouvelle, moi, je trouve. C'est plutôt bien parce que peut-être que dans la discussion qu'on est en train d'avoir avec ces groupes ou ces clubs plus importants qui sont au-dessus, ben ça leur permet de se dire tiens, je peux rester encore un petit peu et vu que au-dessus j'ai quelque chose, j'ai peut-être plus de chance d'avoir une porte ouverte peut-être dans une étape intermédiaire. Parce que moi j'ai souvent eu de la peine à comprendre, mais ce que j'arrive à comprendre, c'est que je sais que le train parfois ne passe qu'une fois et que tu dois le prendre pour tenter quelque chose à l'étranger, mais que des fois, le step, il est trop important et qu'après, tu reviens là où tu étais 3-4 ans auparavant et tu dois presque tout recommencer à zéro. Alors que là, j'ai l'impression que ça tranquillise un peu, ça peut tranquilliser un peu les jeunes qui ont du potentiel. C'est ma lecture, mais je pense que ça peut être qu'une bonne chose.
Florian, on est d'accord, sans Ineos derrière, Alvin Sanchez, par exemple, aurait été vendu il y a 2 ans.
Globalement, c'est ça. Oui, je pense que globalement, il serait loin. Franchement, après, c'est aussi des grandes discussions qui ont été menées à la SFL parmi les clubs de Suisse, d'essayer d'introniser ce modèle que un bon joueur, une pépite, un bijou, appelez-le comme vous voulez, t'affirme en Suisse avant de partir. Et ça a pris du temps, mais aujourd'hui, comme il existe pas mal de modèles et d'exemples qui montrent que passer une saison, 2 saisons Super League, éclater et partir à l'étranger, ça fonctionne, et ben, beaucoup de joueurs acceptent de le faire, ce qui était peut-être moins le cas avant, et ce qui ne veut pas dire que c'est le seul schéma à suivre, il y en a d'autres évidemment.
Valentin, j'en causais avec Alvin Sanchez et Aurel Amenda il y a quelques semaines. Là. Les deux, ils revenaient avec le même terme, c'est que les clubs leur ont présenté un projet, que ce soit physique, technique, temps de jeu, machin et tout. Est-ce que tu penses que ça aurait été possible il y a encore quelques années ?
Possible, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est, à mon avis, aussi vrai, c'est que l'écart entre la Super League et les grands championnats européens, ça croît quand même de manière assez importante. C'est quand même de plus en plus dur pour un joueur qui commence en Super League de partir très vite dans un grand championnat européen avec l'espoir de pouvoir y jouer rapidement.
On a vu Zekiri, c'est l'exemple.
Voilà, Zekiri, Thomas, enfin, il y en a eu quand même passablement. Après, moi, je pense pas ça totalement incongru de partir tôt dans un grand club, dans un grand championnat et de terminer sa formation finalement, de partir à 19 ans, 20 ans et de faire un ou deux ans dans peut-être une équipe réserve d'un grand club européen, dans un grand championnat européen pour arriver encore plus fort et éventuellement, peut-être, pourquoi pas, revenir en Suisse derrière. Quand Gilbrisseau est parti à l'époque et après qu'il a dû revenir par eBay, je pense que ça lui a pas fait de mal finalement de partir au départ.
Ou Kevin Babou,
enfin il y a des exemples, il y en a quand même pas mal. Moi ça me choque pas, mais je peux comprendre que pour l'ego d'un joueur, ce soit important de jouer rapidement et surtout à cet âge-là, on le fait comprendre que jouer et d'avoir de l'exposition à cet âge-là, ça fait quand même jouer beaucoup dans l'avenir que peut te dessiner ensuite. Donc oui, ils ont la chance, Amenda et Sanchez pour parce qu'on si on parle d'eux, d'être dans des clubs qui sont un dans l'élite et qui compte sur eux, donc c'est clair. Par contre, si on compte pas sur toi ou qu'on peut pas te proposer quelque chose de très viable, une concurrence peut-être un petit peu trop importante, eh ben pourquoi ne pas partir dans un club de deuxième ou troisième, enfin dans un club de première division qui a une équipe en troisième division ou en deuxième division de une équipe réserve en deuxième ou troisième division.
Pour revenir au sujet de base, enfin je commence à recevoir deux trois messages. Visiblement, il y a certains sponsors qui serait prêt à se retirer de Yverdon Sport suite à la décision de Marco Chalibon, enfin de se séparer de Marco Chalibon. Je ne sais pas si ce sera confirmé ou pas, mais ça dit quand même, ouais, c'est pas une certaine volonté de manifester, quoi. C'est intéressant.
Bon, on est parti très loin du postulat de base que j'avais prévu pour ce podcast, mais je pense qu'on va continuer là-dedans parce que du coup, cette problématique, elle intègre aussi ce qui se passe au FC Bâle, Daniel. Déjà, première question que je vais vous poser à vous trois, c'est est-ce que maintenant, on a pris conscience que Bâle, en fait, oui, peut descendre. Et deux, c'est cette politique, eux, ils n'ont pas de club en dessus d'eux, ils ont plutôt la famille Degen en dessus d'eux, j'ai l'impression. Est-ce que c'est cette politique de tout changer du jour au lendemain, on le voit à l'Ajax, on le voit à Lyon, pour des clubs qui font quand même pas mal de trading, même si l'Ajax et Lyon, comme Bâle à l'époque, étaient des grands clubs formateurs, est-ce que cette politique est simplement viable et quand ça part en sucette, quoi. On voit qu'à Bâle, il y a deux, trois tauliers, mais c'est des tauliers un peu microdata. Et puis derrière, réussir à faire prendre conscience, un, du club, et deux, de l'urgence dans laquelle se trouve le FC Bâle, Daniel, est-ce que tu penses que c'est possible de s'en sortir avec un patchwork de joueurs comme ça?
Ils ne s'attendaient pas forcément à ce qu'il y ait autant de départs cet été. Ils avaient misé sur quelques départs, mais les départs qu'eux-mêmes avaient prévus, Amdouni, Diouf par exemple, mais autant de départs, ça fait que finalement tu te retrouves très près du début de la saison, avec beaucoup de joueurs en moins, tu dois aller les chercher un peu à l'arrache, sans trop paniquer. Tu as un coach, tu choisis aussi un coach qui ne connaît pas ton championnat. Donc, en fait, tu te rajoutes des difficultés toi-même et tu te retrouves dans ce genre de situation qui est clairement pas étonnante. Moi, je me souviens l'avoir dit chez nous dans match après match, après deux journées. Pour moi, le premier coach qui allait sauter, c'était Timo Schulz, parce que il connaît pas le championnat. Je voyais bien Bâle plutôt dans la deuxième partie du classement. Ça veut pas dire que ce sera le cas à la fin de la saison, hein, mais alors dernier avec aussi peu de points, avec des prestations aussi horribles, j'avais pas imaginé. Mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que là, on voit quand même Heiko Vogel qui perd. Pas à leur poste, il essaye des trucs complètement dingues. Depuis qu'il a repris l'équipe, c'est 4 défaites, 0 but marqué, 10 buts encaissés. Et on sent que le problème, pour ne pas être trop long, pour moi, c'est que dans ce genre de philosophie, tu as des joueurs qui ne se sentiront pas concernés par ça, qui ne joueront pas pour le maillot parce qu'ils sont là, en fait, en sachant qu'ils ne seront plus là après. Ils vont être revendus, ils vont repartir ailleurs, ils vont être prêtés ailleurs. Et donc, ils ne se sentent pas forcément concernés par la problématique, je pense.
Je rejoins pas mal ce que dit Daniel, mais ça prouve aussi qu'au-delà du modèle, au-delà du trading, tu peux faire des choses cohérentes en fonctionnant comme ça, ou tu peux te planter. Je veux dire, si on regarde le match de Bâle à Lausanne, tu as 3 joueurs sur le terrain qui étaient là la saison dernière. Mais si tu regardes Yverdon Sport aussi, tu as 3 joueurs qui sont sur le terrain en ce moment et qui étaient là la saison dernière. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, c'est aussi une question de est-ce que tu as bien fait les choses, est-ce que tu as bien analysé les joueurs qu'il fallait, au-delà de juste est-ce que tu as des promesses pour demain. Et ça pose aussi la question de jusqu'où tu pousses le curseur. Est-ce que Bâle n'est pas allé trop loin? Est-ce que Bâle n'a pas complètement détruit sa base? Comparaison qui n'a pas grand-chose à voir, mais je ne sais pas, quand Souleymane Cissé était au Lausanne Sport, il avait décidé d'une politique de surclassement pour tous les jeunes du Team Vaux, et il avait fait ça dans les grandes largeurs en avançant tout le monde d'à peu près 2 ans. Est-ce que ce n'était pas trop? Oui, parce que toutes les équipes juniors du LS se sont retrouvées en position délicate ou reléguées. Donc voilà, c'est toujours une question de curseur, tu peux le pousser au maximum ou tu peux faire une espèce d'entre-deux.
Après, moi, je crois qu'il y a aussi il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est moi, les journalistes, qui disent ça, mais les gens qui aiment bien se souvenir de Bâle la saison dernière. Ouais, on passe d'une équipe qui a été demi-finaliste de Coupe d'Europe. Ah oui, mais la Conference League, à une équipe qui est dernière aujourd'hui. Mais si on se souvient bien, cette campagne de Conference League, mais combien de fois ça s'est joué à... Bon, allez, à un cheveu, je le dis, vu que c'est moi, j'ai le droit. Ça s'est joué à rien, quoi. Ça s'est joué à rien du tout, parce que ça se joue à un tir, à un but à la 97e parfois, à une séance de pénalty d'autres fois. Et je crois qu'en fait, cette campagne de Conference League, la saison dernière, elle a caché énormément de problèmes.
Le vrai Bâle, c'était...
Oui, ouais, c'est celui du championnat.
C'est celui de la Super League. N'oublions pas qu'il passe contre Nice, qui ne mettait plus un pied devant l'autre et compagnie, c'est clair. Ça, c'est clair. Valentin, je voyais que tu voulais dire des trucs avant.
Non, mais enfin, je pense que Bâle, moi, Bâle, j'ai beaucoup de peine à blâmer, un, les joueurs, deux, l'ancien entraîneur, parce qu'actuellement, il n'y a pas d'entraîneur. Enfin, c'est un bordel intégral, ce qui se passe dans ce club. Ça fait des... Alors, La gestion des guns, enfin, on voit ce que c'est depuis maintenant 2 ans. L'idée d'avoir un directeur sportif fort, qu'il est. Et je rappelle quand même que Heiko Vogel a été introduit il y a même pas un an. Il a été introduit, sauf erreur, fin décembre 2022. Donc, on est arrivé avec l'idée d'avoir un directeur sportif fort. Après 2 mois, il était en poste à la place d'Alex Frey. On le remet en poste maintenant. On est en octobre, fin octobre. Et là, tout à coup, on revoit complètement le modèle de direction sportive en s'inspirant de la commission sportive qui existe aussi, par exemple, à IB. C'est quand même 2 modèles qui sont très différents l'un et l'autre. C'est un qui concentre énormément d'aspects sur une seule personne ou une seule personnalité, en l'occurrence avec Fogel, et la commission sportive les dissémine et essaie d'avoir une vision qui soit un peu plus horizontale et qui permet d'avancer de manière un peu plus raisonnée et en tout cas qui permette la contradiction. Fondamentalement, je plaide pas plus pour l'un ou pour l'autre, mais ce qui est clair, c'est qu'à l'heure actuelle, Heiko Vogel est totalement dépassé dans le rôle qu'il tient. Il n'est surtout pas fait pour être entraîneur en ce moment, même si, alors, je pense qu'il va très vite être le licencié, hein. Enfin, on va très vite se débarrasser de lui.
Je fais du F5 pendant qu'on cause parce qu'aujourd'hui je fais attention à tout.
Voilà, mais c'est, bon, d'après ce qu'on me dit, il était à l'entraînement ce matin, donc c'est ce que me disait un collègue. Mais quand même, la situation devient très chaude et disons que tant qu'on n'aura pas une ligne directrice qui soit claire, structurée, et qui est un peu plus loin que le simple schéma de j'achète ou je me fais prêter des joueurs, je les promeux et je les revends derrière, ça va être compliqué d'avoir un Bâle stable. Après, est-ce que ça va tomber ou pas? Ça, j'en sais rien, le championnat est quand même long. J'imagine qu'il y a suffisamment de talent dans cette équipe pour gagner des matchs. mais le problème est…
Déjà un. Hein.
Oui, alors ça c'est sûr. Mais dis donc, le problème, il remonte bien plus loin que les joueurs.
Moi, j'ai une question à vous poser. Je me la pose à moi-même et je n'arrive pas à trouver de réponse. Donc, je vous écoute volontiers là-dessus. Comment vous expliquez que depuis le départ de Timo Schulz, on n'est pas encore un entraîneur à Bâle? Est-ce que le challenge est trop gros? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce qu'ils cherchent, mais qu'ils ne sont pas convaincus? Enfin, vous avez des infos ou est-ce que vous avez un avis là-dessus?
Moi, je n'ai pas d'infos, mais ça m'étonnerait que personne ne veuille y aller. Parce que je pense qu'un entraîneur qui est libre et qui a l'opportunité d'avoir un club aussi exposé que le FC Bâle, aussi grand que le FC Bâle, il est, à mon avis, recule. Il y va. Celui qui a l'embarras du choix, il peut se poser la question. Celui qui ne l'a pas, il y va. Donc ça, je ne pense pas que ce soit une question, cette question-là. À mon avis, et ce que je lis un peu plus, enfin, ce que j'essaie de lire entre les lignes un petit peu maintenant, c'est qu'il y a quand même un changement de structure qui se fait à Bâle, et puis que très vite, on va quand même avoir un nouvel entraîneur une fois que la structure remise en place sera assez claire. Je pense que la commission sportive va devoir très vite nommer quelqu'un.
On parlait des supporters avant pour par chez nous, mais quand même, on peut souligner les supporters de Bâle qui sont exemplaires, qui cassent pas tout comme on aurait pu l'attendre, qui font pas 700 banderoles par match, qui s'énervent un peu à la fin, mais on le serait énervé à moins, surtout avec 10 bières dans le corner en fin de match. Florian, ils sont passés par Yverdon. Hein, ça peut bien se passer aussi, malgré tout ce qu'on voit sur BFM TV aujourd'hui.
Oui, c'est clair. Enfin, je pense qu'on peut saluer ce comportement. Maintenant, ça doit quand même être un comportement normal. J'ai envie de dire que si tu casses tout dès qu'il y a 3 défaites, c'est ça qu'il faut blâmer plutôt que de féliciter les gens qui cassent pas tout, à mon avis. Je profite juste d'avoir la parole. Je pense qu'on peut faire aussi un petit pas de côté, mais avec tout ce qu'on a dit, on projette souvent une vie de rêve aux footballeurs. On se dit que, ouais, ils ont vraiment de la chance, ils font un métier de rêve, ils jouent au foot, etc. On le voit avec Yverdon, on le voit avec Bâle. Être footballeur en ce moment dans ces clubs-là, tu as beau avoir un salaire confortable, tu dois vivre dans une incertitude. Voilà, certains sont prêts à ça, il n'y a pas de souci. Mais on l'entendait avec William Le Bogam dans le podcast la semaine passée, même pas entre les lignes, il a dit son malaise au début de saison de ne pas savoir où il allait, de ne pas savoir comment ça allait se passer, de ne pas savoir qui seront ses coéquipiers, combien de temps ça allait durer, etc. Et je crois qu'il faut se rappeler de ça au-delà du fait qu'on pense toujours que les footballeurs font absolument ce qu'ils veulent, travaillent 2 heures par jour et restent du temps juste profitent de leur immense salaire pour s'offrir des grandes voitures, quoi.
Parce que Valentin, nous on dit jouer au foot hein, quand on est en deuxième ou troisième ou quatrième, c'est des clubs qu'on a choisis. Il y a certains joueurs qui ne choisissent pas où ils vont.
Non, ça c'est clair, c'est un des problèmes du football actuel, même si à mon avis il a toujours été un petit peu comme ça, même si ça s'est amplifié, ça ne fait que de s'amplifier. Après, disons que ce que je me dis aussi, c'est qu'un footballeur, un footballeur professionnel ne raisonne pas totalement comme nous. Il fait son travail, il est mu par une ambition qui est un petit peu différente que ce que nous on pouvait avoir quand on est au foot. Il y a des choses qui sont importantes pour nous, qui le sont beaucoup moins qui ont beaucoup moins de valeur dans la vie d'un joueur professionnel, qui est peut-être plus prêt et plus préparé aussi à bouger d'une case A à une case B, même si ça l'emmène dans des contextes qui sont totalement différents. Ça veut pas dire qu'il est épanoui, mais ça veut dire qu'il est préparé à ça. Et donc c'est peut-être proportion gardée, un petit peu plus facile à supporter, et je ne crois pas qu'il faille absolument nous mettre à la même, nous comparer directement avec le destin d'un footballeur professionnel qui a vécu quand même des choses qui sont totalement différentes de ce qu'on, par rapport à ce que nous on a pu vivre, ne serait-ce que dans notre jeunesse, dans notre développement personnel en tant que personne, en tant qu'homme. Donc voilà, mais ça ne dédouane rien, ça n'atténue rien. Je suis très content avec ma vie, je ne suis pas sûr que je voudrais avoir la vie d'un footballeur professionnel actuellement.
Daniel, on devient vraiment, ça devient limite de la philosophie. Hein. Et puis c'est vrai, quand on cause avec des joueurs, quand on les côtoie, c'est pas souvent que le côté de la vie personnelle est mis en avant, parce que aussi non plus, on ne le parle pas de façon naturelle. Hein, et ça, c'est beaucoup focalisé sur le foot, et on voit très peu l'autre facette de ce métier.
On le montre peu, nous, à la télévision, on en parle peu aussi dans la presse off, comme on dit. la situation à côté du football. Et des fois, effectivement, on a de la peine. On a de la peine pour eux. On les plaint pour dans certaines situations. Moi, sans donner des noms, y a des joueurs qui m'ont raconté des choses auxquelles je n'attendais pas forcément, qui sont des fois dans des situations auxquelles ils ne s'attendaient pas. Et effectivement, comme vous l'avez bien dit, le fond des belles bagnoles et puis aller s'entraîner 2 heures le matin. Mais d'ailleurs, là, on parle plutôt du foot de chez nous. Moi, j'ai gardé un truc de cette série sur Netflix à propos de Dave Beckham. C'est le moment où lui-même, tout Beckham qu'il est, avec la vie qu'il a eue, la carrière qu'il a eue, il raconte qu'il y avait des moments où il ne savait pas comment il allait se lever pour aller travailler. Et le terme travail, il ne disait pas pour aller jouer au foot, mais pour aller travailler quand il a eu des moments compliqués dans sa carrière. Et ça, c'est bien, c'est bien qu'on lise, qu'on le mentionne.
Florian, on a eu Diablo Pogam et Fabrice Nsakala dans nos podcasts que vous pourrez retrouver juste là en dessous. C'est bien aussi qu'il y ait des formats comme ça, justement, pour élargir un peu le sujet et vraiment connaître la personne, parce que c'était vraiment deux parcours de vie assez intéressants.
Mais évidemment, puis il faut se rendre compte que, surtout quand on parle de Fabrice Nsakala et William Le Pogam qui viennent de France, et c'est encore plus le cas là-bas, mais pour beaucoup, le football, c'est all-in, quoi. Pour beaucoup, c'est on interrompt les études et on donne tout pour ça, et il faut que ça marche. Donc oui, il faut aussi avoir ça à l'esprit. Voilà. J'ai un peu plus loin, parce que je trouve que ce qu'a dit Dany et ce qu'a dit Valentin faisait un très bon mot de la fin.
Alors, c'est le mot de la fin. Merci messieurs, c'était très intéressant, et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Merci beaucoup, Robin.
Merci. Alors, merci.